Eh boy, Pascal, ça brasse à l'Assemblée nationale. Je sais pas, je suis un curieux. Moi, j'aurais aimé ça voir toute cette belle gang-là de gars qui vont manifester en face de l'Assemblée nationale avec tous les camions qui sont réunis. C'est de toute beauté voir ça. C'est la gang de l'AICAI, de ce que je comprends, qui manifeste. Donc, on les salue. Plusieurs camionneurs qui sont venus faire leur tour à Québec. Des gens du Saguenay, des gens de la Côte-Nord, des gens de la Gaspésie, des gens de la Beauce, des gens de l'ouest du Québec, donc de Montréal, de Gatineau. C'est le fun de vous avoir avec nous. Puis quand il fait beau, ben, vous pouvez découvrir notre belle ville aussi. Prochain sujet, on a le plaisir de le recevoir en studio. Je suis un peu nerveux, c'est un professeur en communication, donc je vais essayer de faire attention à la façon dont je dis les choses. Il est professeur en communication et gouvernance à l'École nationale d'administration publique, donc à l'Université du Québec. Son nom, c'est Philippe Dubois. Il vient nous présenter un projet de recherche pour comprendre les attentes des citoyens à propos de l'utilisation des médias sociaux que font leur ville. Salut Philippe.
Salut.
Très content de te rencontrer. T'as une belle grosse voix, c'est le fun. Moi aussi, mais c'est grâce à ma grippe. Fait que,
ouais, c'est ça, moi aussi. les allergies, tout ça.
Pourquoi on s'est penché là-dessus? Pourquoi on s'est penché sur ce qu'attendent les citoyens à propos de l'utilisation des médias sociaux de la ville de Québec, exemple, ou de la ville de Montréal?
Alors, on s'y est penché parce qu'on prend ça un peu pour acquis, je pense. Tu sais, les médias sociaux, Facebook, là, ça fait grosso modo 25 ans que c'est dans nos vies.
Ouais.
25 ans qu'on l'utilise. Ça fait 25 ans que ça l'évolue. Et clairement, on n'utilise plus Facebook de la même façon qu'on le faisait là, 5, 10, 15 ans,
par
20
chance.
Ans.
On n'aurait pas de carrière, nous autres. Là.
Ben, des fois, on retrouve des trucs un peu louches.
Hey, on avait 14, 15 ans quand ça a commencé. Ouais, Facebook,
Ça laisse des traces
indélébiles.
Oui. Mais bref, si nos habitudes changent, ben il faudrait aussi que les habitudes des municipalités, des gouvernements évoluent. Puis ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce qu'elles évoluent, puis sur la base de quoi? Est-ce que nos attentes comme citoyens ont changé? Si oui, est-ce qu'on peut aider les villes à faire mieux?
C'est est-ce un qu'on peu a la des attentes? D'abord et avant tout, on a-tu des attentes envers les villes sur les médias sociaux? Parce qu'on voit des politiciens, des fois, Sonia Lebel, qui commençait à faire des TikTok ou commençait à alimenter son Instagram, puis on se disait, peut-être pas nécessaire là, quand tu as fait la commission Charbonneau, puis tu as une crédibilité de le faire de cette manière-là pour aller rejoindre des gens?
Mais à l'inverse, si Sonia Lebel publierait que de l'information pas très sexy sur le Conseil du Trésor qu'elle dirige, peut-être qu'on serait moins intéressé à aller voir ce qui se passe sur ses réseaux. Quand Sonia Lebel a publié une photo de quatre roues d'elle sur Instagram, elle sur un quatre roues, bien clairement, ça rejoint plus de gens.
Pour quelle raison, par contre?
Ça, c'est weird.
Ouais. Mais c'est vrai, mais en même temps, c'est des humains comme tout le monde, puis les plateformes encouragent beaucoup ce genre de comportement-là. Donc, je pense que les politiciens l'utilisent de la façon qui leur paraît être la plus avantageuse.
Ça peut nuire, puis ça peut aussi aider, mais dans ce cas-ci...
Exact. Mais la Ville de Québec, par exemple, elle peut pas se poster en quatre roues. Donc, comment elle fait pour rendre son contenu intéressant? Ouais. Comment elle fait pour rendre ça attractif? Puis surtout, pourquoi un citoyen normal, pourquoi moi, le matin, en me levant, j'irais consulter la page Facebook de ma ville plutôt que celle de mon frère, de mon ami, de mon band de musique?
Il y a ça, mais plus le voir passer dans ton feed d'actualité, des fois, il y a des nouvelles il y a des trucs que la ville veut communiquer qui sont hyper pertinents. Bon, il y a la radio qui est là, il y a la télé, il y a les médias écrits, puis maintenant, il y a les réseaux sociaux. Mais quand vous disiez, toi et Pascal, que les choses ont évolué depuis la création de Facebook, n'allez pas voir vos premiers messages Facebook.
Ou les supprimez-les une fois que ça revient dans vos souvenirs.
Je sors au parc. Salut!
Ça, c'est rien, là!
2006, c'est ça!
Ah, si c'est ça, tous tes messages, t'es chanceux!
Ouais, puis il y a un moment donné, il est arrivé quelque chose sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui pensaient qu'il y avait eu un bug, donc les messages privés étaient rendus sur le mur. Mais après enquête, ils se sont rendus compte que non, c'est juste nous autres qui étaient un peu mêlés. Puis on écrivait à nos amis directement sur notre mur. Ouais.
C'est qu'il n'y avait pas Messenger à l'époque. Non. Messenger n'était pas un outil de Facebook. Ouais. Fait qu'on se parlait littéralement sur nos murs. Ouais.
Fait que, tu sais, on a progressé. Je pense que les villes aussi ont progressé dans leur façon de communiquer. Puis, tu sais, il y a eu aussi les formations pour les experts en communication dont tu fais partie qui, vendent leurs services pour justement s'occuper des communications d'une ville. Mm-hmm. Puis ça a apparu, ça s'est beaucoup amélioré. Ouais. Puis pour ce qui est des citoyens, tu sais, moi, la vie d'ébullition d'eau à Val-Belair, j'aime mieux l'avoir avant de boire l'eau qui va me rendre malade, tu comprends?
Ouais.
Fait que de là, l'importance pour les citoyens d'avoir un service de communication à la ville qui est hyper proactif.
Puis les villes ont beaucoup investi pour développer une expertise interne aussi, parce que j'ai rien contre les boîtes de com, mais on peut pas toujours s'attendre à ce que d'autres personnes que les principaux concernés fassent le travail pour celles et ceux dont c'est la mission. Autrement dit, la ville, sa job, c'est de faire plein de trucs, dont communiquer ce qu'elle fait. La Ville de Québec, je pense qu'elle est assez performante au niveau des communications. Mais il y a plus de 1100 villes au Québec. Elles ne sont pas toutes, on va se le dire, très, très sharp sur la communication, parce que des fois, quand toute ta fonction publique, ça se résume à Colette et Nicole qui font la bibliothèque, qui président l'Assemblée du Conseil, puis qui font un peu de voirie le mardi, bien clairement, les moyens sont limités. Fait que notre étude, le but, c'est d'identifier des bonnes pratiques ou du moins d'identifier les attentes des citoyens pour après ça les partager avec les villes.
Quand tu es allé les rencontrer, avant qu'on aille peut-être dans le gros de ton étude avec tes collègues, est-ce que tu avais l'impression que c'était pris au sérieux? Est-ce qu'il y avait des postes qui avaient été créés avec des gens pertinents à être placés dans ces postes-là ou c'était un genre de complément à la dite Colette?
J'entends les deux. Dans le cadre de l'étude, là, on parle des 10 plus grandes villes, des 11 plus grandes villes. Donc, c'est des machines qui sont bien huilées. Oui, effectivement, au Québec. Donc, des machines qui sont bien huilées avec des équipes compétentes puis qui ont des ressources. Mais dans le cadre de d'autres travaux, de d'autres études, je parle à des plus petites municipalités où il y a encore des villes où il faut convaincre que c'est important les communications. Il y a encore des villes, cette année, qui ont aboli leur service de communication parce qu'il fallait qu'ils trouvent des sous puis qui ont dit « ben ça, c'est pas prioritaire ». Mais il n'y a rien qui peut se faire dans la vie sans de la communication. Puis, tu sais, c'est pas juste faire de la com pour faire de la com,
t'es
faire de la
biaisé,
pub.
T'es pas biaisé,
toi? Non, mais je le dis très sincèrement. Oui. Tu sais, on peut pas organiser une société sans dire aux gens, bien, voici ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, puis voici ce que vous devez faire ou pas. Tu sais, c'est le béaba des choses. Mais c'est encore perçu comme un peu du bling-bling ou un peu complémentaire. Alors que c'est très, très, très stratégique, en fait.
Est-ce que c'est un bon moyen, les réseaux sociaux, pour communiquer avec les citoyens? Puis, tu sais, tu parlais des politiciens tout à l'heure. Je remarque un certain ralentissement pour ce qui est des communications de la part de certains politiciens, entre autres sur Twitter. Sur Facebook, il y en a de moins en moins, là, parce que c'est un peu plus difficile de se créer des comptes sur Facebook que sur Twitter. Mais je vois qu'ils sont écœurés de se faire insulter constamment.
Ouais.
T'as-tu remarqué ça, qu'il y a certains politiciens qui ralentissent un peu le rythme?
Clairement. Il y a des gens qui décident de moins communiquer. Il y a des gens qui, puis c'est dommage parce que les médias sociaux sont faits pour techniquement avoir un lien direct avec nos élus, mais il y en a qui choisissent de dire « gars, ça va être mon staff qui va s'en occuper » parce que mentalement, je suis écœuré de me faire insulter.
Ben, c'est émotif aussi.
Oui,
là,
exactement.
Puis les gens embarquent dans les affaires personnelles.
Ben oui. Puis on dirait que parce qu'il y a le filtre numérique, les gens oublient qu'ils parlent à des humains puis qu'ils en sont eux-mêmes. Tu sais, des notions de base de politesse, on dirait que ça disparaît sur Facebook, on ne sait pas trop pourquoi. Puis au municipal, il y a des élus qui ont démissionné en citant notamment cette raison-là. Les gens ont pu... Moi, je suis pas là pour l'argent, parce que n'importe qui sait que, tu sais, politicien municipal, là, tu te mets pas riche avec ça, puis tu le fais pas pour le fame. Donc, généralement, les gens y vont parce qu'ils ont le goût de profiter à leur communauté. Mais quand il y a des outils qui les bombardent d'insultes à journée longue, bien, ça se peut que ça en décourage certains. Puis on se prive collectivement d'avoir des bonnes personnes qui pourraient faire une bonne job ou pas, mais qui ont le goût d'y aller puis qui y vont pas, tu sais.
L'intelligence artificielle, est-ce que c'est utilisé par nos villes pour communiquer avec les citoyens?
De plus en plus. Entre autres, le classique ChatGPT qui est capable maintenant de nous générer des messages attractifs pour accompagner des publications, des trucs comme ça. En même temps, on est encore au début du truc, puis il faut s'interroger à savoir si c'est toujours la bonne, t'sais, le bon outil pour communiquer, parce que on le sait, là. Moi, je suis prof d'Uni, là. Du ChatGPT, je suis capable de le reconnaître, là, parce que dans les
c'est
copies...
C'est si facile que ça, pour vrai?
Oui. Ben, quand c'est bien fait, non. Mais généralement, est-ce que c'est bien fait? Tu sais, quand on demande juste en une itération à ChatGPT de nous générer quelque chose...
On copie-colle, qu'on repasse pas dessus.
Exact.
Ah ouais, même à l'université.
Même à l'université. Oui, malheureusement. Mais bon, c'est un outil qui est fantastique. Puis c'est comme la calculatrice, là, ça va devenir un outil normal qu'on va utiliser de plus en plus. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'il y a une plus-value ou c'est juste un gadget? Puis ça, souvent, dans le numérique, c'est ça la question. C'est de dire, on peut faire plein d'affaires, mais est-ce que c'est nécessaire? Puis est-ce que ça vaut la peine de mettre l'argent public là-dedans?
Puis ça peut tanner les gens aussi, là. T'sais, juste le service de réponse automatique sur les réseaux sociaux. Tu écris à ton échevin, puis là, tout d'un coup, c'est écrit comme « Votre appel est important pour nous, veuillez nous... » Ou, tu sais, dans le temps, il y avait comme fait les messages automatiques au téléphone où t'appelais, puis veuillez appuyer sur le 1, veuillez appuyer sur le 2. Puis là, t'avais comme une multitude d'étapes qui faisaient en sorte que tu te décourageais parce que tu réussissais finalement pas à avoir la personne que tu voulais avoir. Mais l'intelligence artificielle, il faut l'utiliser, mais d'une façon efficace. Il ne faut pas tanner le citoyen qui veut communiquer avec sa ville pour avoir certains renseignements. Puis là, tu as des réponses automatisées qui n'ont aucune empathie.
Exact. Il faut revenir aux bases. Communiquer, là, c'est échanger avec quelqu'un. Si tu prends plein d'outils pour mieux communiquer qui, au final, t'empêche d'échanger efficacement,
ouais.
tu perds ton temps. Parce que le citoyen, quand il est fâché puis qu'il a envie d'appeler le 3-1 pour dire comme ça, ça n'a pas de bon sens, il a envie de se sentir écouté rapidement puis de se sentir pris en charge. Après, que le résultat lui convienne ou pas, si le processus a été satisfaisant, ton citoyen va être plus satisfait, même si, au final, il n'est pas d'accord.
Je sors un peu de ton étude, à moins que ça soit regroupé là-dedans, mais ces citoyens-là, par exemple... Est-ce que tu penses qu'ils sont rejoints par les services de communication sur les réseaux sociaux ou autre? Je vais prendre l'inondation, OK?
Ouais.
L'inondation se passe, on est en train de mettre des avis sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, on essaie de rejoindre le plus de monde possible. Est-ce que le nombre d'appels diminue à la mairie ou ça reste stand-by?
Le défi, là, puis tu le traduis très bien, le défi, c'est qu'on a plus de moyens, donc il y a plus de demandes. Donc, il faut être capable, si on ajoute un outil de communication, il faut être capable de le gérer parce que ça ne veut pas dire qu'on va baisser la demande sur un autre outil de communication. Ça veut juste dire qu'on ouvre plus de portes, puis ça, il faut être capable de le gérer. Puis ce qu'on voit dans des plus petites villes, c'est qu'on a fait un compte Facebook, un compte Instagram, un compte X, un compte Twitter, mais qu'on a une personne pour gérer ça. Mm-hmm. La personne n'a pas plus d'heures dans sa journée parce que tu as plus de comptes à alimenter.
Si deux commencent à s'obstiner, là.
Ben, c'est ça. Puis si tu veux tirer ton épingle du jeu, sortir du bruit, puis que ce soit minimalement attrayant puis efficace, ben il faut que tu y mettes de l'énergie, il faut que tu y mettes de l'amour. Puis ça, ben ça prend des ressources.
Mm. Effectivement. Est-ce qu'il y a des choses dans ton projet d'étude qui t'ont stupéfaite? Des choses que tu dis, hey, boy, je ne m'attendais pas à découvrir ça.
Je pense que, puis là, je dis ça, je navigue à vue. Là. On est encore dans la collecte de données.
Ouais.
Mais ce que j'ai vu passer jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'y a peut-être pas un appétit aussi développé que ce qu'on pourrait le penser. T'sais, on a longtemps pensé les médias sociaux comme étant quelque chose de révolutionnaire, qui allait permettre aux gens de s'intéresser davantage aux affaires publiques, de communiquer plus facilement avec leurs administrations, de rejoindre leurs élus. Mais au final, monsieur, madame, tout le monde, ça ne les intéresse pas tant dans la vie. T'sais, quand on a un problème, quand on a un enjeu, quand on a un besoin, oui, mais dans notre vie de tous les jours, que je puisse avoir plus d'occasions ou pas de parler à ma ville, ça change pas grand-chose.
C'est un peu comme les
moi.
Conseils de ville. Tu sais, toi, t'as travaillé là, en politique municipale, t'en as vu des conseils de ville, t'as travaillé au sein d'une équipe. C'est un peu ça, c'est tout le temps les mêmes, c'est des plaignards quirulants qui se présentent semaine après semaine.
Dans la littérature, on appelle ça des hyper-citoyens, mais c'est des plaignards
c'est
quirulants.
C'est donc bien smart, ça.
Oui, oui, oui.
Vous le dites, mettons, hors des salles closes, ouais. Ça, les hyper-citoyens.
Parce que les gens quirulants, tu sais qu'au palais de justice, on les met complètement dehors du palais de justice, ils n'ont plus le droit de rentrer.
Exact.
Parce que nous, médiatiquement parlant, on parle de plaignants quirulants.
Oui, puis vous devez en avoir probablement dans vos inbox.
Oui, mais c'est surtout, non, c'est surtout des animateurs de radio.
Mais effectivement, il y aura toujours des gens, les hyper-citoyens, ou celles et ceux qui ont toujours de quoi dire sur n'importe quoi, qui vont être là à toutes les rencontres, ben, c'est probablement les mêmes qui vont être aux consultations publiques puis sur ta page Facebook.
Ils vont avoir les badges de Facebook.
Oui,
là.
Oui, oui, okay. Oui. Comme les super fans.
Oui.
Fait que le défi, c'est d'aller rejoindre monsieur, madame, tout le monde qui n'a pas un intérêt particulièrement développé, mais qui aurait intérêt à être un peu plus informé. Puis ça, c'est la clientèle qui est le plus dur à aller chercher.
Mais je suis surprise parce que les pages Spotted, là, des villes, là, c'est tellement populaire.
Ouais.
Là. Je comprends que c'est le petit village, puis le petit coin de rue, puis le petit Gérard, puis des faits divers, puis de la police, puis qui c'est qui a volé mon barbecue, puis ma housse.
Mais c'est ça. Mais c'est pas des employés de la ville qui écrivent ces fameux spotted-là. C'est des initiatives citoyennes.
C'est ça.
Puis, mais ça pogne en maudit. Ouais. Parce que des fois, t'as des choses hyper pertinentes, puis des fois, t'as des tapons. Là.
Oui.
Des gens qui écrivent à peu près n'importe quoi.
Nous, ça nous aide là, à la radio. Là.
Ben oui.
C'est une source d'info parce que c'est l'essence même des médias sociaux de laisser les gens se parler puis s'organiser entre eux. Une ville sur un média social, il n'est pas plus important que n'importe qui d'autre. C'est un utilisateur parmi d'autres, donc c'est à lui d'être sexy ou de se tasser.
Est-ce que c'est tout à leur avantage d'avoir un petit grain d'humour comme un genre de réseau social d'Hydro-Québec sur Twitter, comme un genre de canac qui, le lendemain de la Saint-Valentin, va dire « Si vous avez perdu les clés, venez chez nous, on va vous en trouver. » Tu sais, est-ce que ça, c'est à réfléchir quand tu fais du réseau sociaux pour une municipalité ou dans un domaine un petit peu plus sérieux?
On en voit de plus en plus parce que ça fonctionne, parce que ça rend le message attrayant, parce que ça donne le goût aux gens de lire puis d'entendre ce que tu as à dire. Maintenant, c'est pas toutes les administrations qui peuvent faire ça. T'sais, Hydro-Québec s'en sont permis beaucoup, puis c'est drôle, puis ils ont développé leur ton, fine. Mais je vois difficilement la Sûreté du Québec ou un palais de justice commencer à adopter le même ton.
Et pourtant, sur TikTok, la Sûreté du Québec, si vous avez deux secondes pour aller voir ça, là, moi, je suis fascinée, je suis tombée là-dessus dans les dernières heures. Et tu as un policier qui répond à des questions, entre autres. La question, moi, qui qui m'a saisi, c'est « Avez-vous le droit de passer avec vos gyrophares sur une lumière rouge, puis après ça, les enlever? » Bien, t'as l'agent en communication de la Sûreté du Québec qui commence à faire des vidéos, puis qui dit « Bien, moi, je vais vous expliquer un contexte dans lequel on le fait, et ce n'est pas pour aller au Tim Hortons, par exemple. » Il dit « Si on est appelé dans un contexte de violence conjugale, il faut qu'on se dirige rapidement, mais il ne faut pas qu'ils nous entendent arriver, il ne faut pas qu'ils nous voient arriver non plus. Alors, ça arrive qu'on va passer sur une lumière rouge, mais pour ne pas causer un accident ou blesser quiconque, on va mettre les phares, les gyrophares, puis on va les éteindre tout de suite. Alors, non, on n'essaie pas d'arriver plus en avance au Tim Hortons.
Ça, c'est la bonne réponse à donner sur TikTok.
Il y en a qui abusent peut-être.
Ayant grandi au centre-ville de Québec, je te confirme que les policiers, la nuit, vers 3-4 heures du matin, mettent les flashs, traversent et après ça, continuent leur ronde de sécurité pour voir ce qui se passe dans ce secteur.
Mais c'est intéressant parce que ça, tu vas chercher du monde. Mettons qu'on revient à la base de la communication avec les réseaux sociaux, la ville pourra aller là.
Tout à fait. Puis je pense que la ville de Québec le fait. Puis allez voir si vous ne l'avez jamais fait. Là. Moi, j'y trouve quand même assez drôle, les personnes, les gestionnaires de la communauté, la Ville de Québec. Ce n'est pas toutes les villes qui ont ce ton-là, puis je pense que c'est correct que ça ne soit pas le cas. Là. Mais je pense qu'il y a une façon de packager le message public pour qu'il soit le moindrement attrayant. Et ça, pour qu'il soit attrayant, il faut comprendre ce que les gens veulent.
Parlant de comprendre ce que les gens veulent, petite parenthèse, Philippe Dubois, je sais que tu es là pour nous parler de ta recherche, mais le pont est en ce moment envahi de camions direction nord. Si vous avez à passer dans le secteur assez bourré, faites attention aux manifestations du côté de l'Assemblée nationale. 1000 camionneurs qui étaient attendus aujourd'hui, c'est sûr que ça congestionne sur nos réseaux routiers.
Ouais, puis il n'y aura plus de place tantôt. Là. Quiconque a déjà été dans ce secteur-là de l'Assemblée nationale sait que 2000 camions, ça ne rentre pas. Il va falloir pousser un peu. C'est une façon bizarre de l'imager, là, mais on n'aura pas le choix si tout le monde veut arriver à la Ville de Québec. Autre question que j'ai à te poser, Philippe Dubois, on rappelle aux auditeurs que tu es professeur en communication et en gouvernance à l'École nationale d'administration publique. Tu viens nous parler de ton projet de recherche. La longueur des textes. Dans ma vie, comme citoyen, je suis un gars hyper paresseux. Puis c'est drôle parce que j'ai parlé avec un homme d'affaires il y a de ça quelques semaines, puis il me disait, moi, le mot d'ordre chez tous mes employés, c'est s'ils ont à m'écrire, c'est 4 lignes maximum. Dépasser 4 lignes, je ne lis plus. La longueur des textes, as-tu été étudiée? Parce que, tu sais, dans mon travail, j'ai pas le choix. Je fais pas juste lire le chapeau. Il faut que je lise le truc au grand complet. Puis après ça, j'essaie de me souvenir de ça. Mais dans la vie de citoyen ordinaire, si j'arrive sur le site de la Ville de Québec, puis c'est, 85 lignes, je vais lire le début, puis après ça, c'est fini, je m'en vais.
Il y a des études qui ont montré que souvent, les administrations communiquent dans le langage qu'ils utilisent, mais ce n'est pas nécessairement le langage que les gens utilisent. Des boîtes comme Retraite Québec sont en train de faire un exercice hyper intéressant de reprendre leur page web puis de dire « Monsieur, madame, tout le monde, là, il ne comprend pas ça, une rente viagère. » Qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie, une rente viagère? Puis de changer les mots, pas pour prendre les gens pour des cons, pour parler comme le monde parle, pour que les gens puissent comprendre, parce qu'encore une fois, c'est ça le but de la communication.
Sur les médias, c'est du respect, là, c'est un beau respect.
Ben oui. Puis tu sais, des fois, c'est les habitudes. Des fois, on est, quand on baigne dans un milieu, on parle comme nos collègues parlent. Mais il faut toujours se rappeler en communication, puis particulièrement en communication publique, qu'on ne parle pas à nos collègues, on parle à l'ensemble de la population.
Mais c'est pas un peu nivelé par le bas quand on fait ça?
Pas quand on dit la même chose.
En disant, OK, ben on utilise ce vocabulaire-là n'est pas compris par, je sais pas, au moins 20-30 % de la population. Donc, on va abaisser notre niveau de langue pour que tout le monde nous comprenne. Mais en même temps, ceux qui ont de la misère à comprendre puis qui veulent à un moment donné arriver à un certain niveau de langue, faut qu'il y ait accès à de l'écriture comme ça.
C'est intéressant, Yannick. Moi, je le vois plus comme un lexique, mettons, professionnel. Comme nous, si on se met à parler de pacing ou un ID sonore ou un... Peut-être qu'on va en faire saigner du nez, là. Puis ça nous arrive en onde d'utiliser ça, puis je me dis, faudrait peut-être expliquer c'est quoi. Je le vois plus comme un lexique, toi, tu le vois comme un nivelé vers là-bas?
Bien, si le gouvernement se dit, écoute, nous autres, on a utilisé des linguistes pour bâtir le texte, puis finalement, même nous, on n'est pas capable de comprendre ce que le linguiste... Tu sais, là, je comprends qu'on doit peut-être abaisser le niveau de langue, mais... Est-ce que de se descendre au plus bas dénominateur commun, c'est la meilleure des affaires pour que tout le monde nous comprenne?
Ben, il ne faut pas oublier qu'il y a de la pédagogie à faire, c'est clair. L'exemple de rente viagère versus rente à vie, pour moi, ça veut dire la même chose. Si les gens le comprennent mieux, tant mieux. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas aussi vulgariser des choses sans les expliquer, parce que le citoyen a droit à avoir toute l'information. Mais ça, il n'y a pas de recette miracle. Je pense que en fonction de chacune des organisations publiques, il y a une réflexion stratégique à y avoir, à qui on veut parler. Puis je reviens à la question de la longueur des textes. Il y a des organisations publiques que c'est avantageux pour eux d'avoir des longs textes parce qu'ils parlent à des gens qui sont intéressés à avoir un maximum d'informations sur des trucs très nichés. Puis il y a d'autres organisations qui veulent parler à tout le monde, bien qui vont aller plus dans le format vidéo, dans le format podcast, dans le format de texte court, dans les memes, ces trucs-là, parce que ils peuvent passer leur message de façon plus concise puis rejoindre plus de gens, mais il faut avoir en tête à qui on veut parler, c'est quoi notre public.
Ouais, j'ose pas imaginer ce que je pourrais recevoir comme message si j'étais actuaire, de la part de mon association.
Des mots hyper précis, ouais, ouais. Tout est calculé. Tu viens que ça en finit plus. Puis la place de la fausse information, est-ce que vous vous êtes penché là-dessus? T'sais?
Il y a de plus en plus d'études là-dessus parce que ça vient vraiment tout changer. T'sais, si on recule de 5 ans, la preuve ultime de quelque chose, c'était de l'avoir en photo ou de l'avoir en vidéo.
C'est fini.
C'est fini. Mm-hmm. On ne peut plus prendre pour acquis maintenant que ce qu'on voit sur les médias sociaux, c'est vrai.
Puis, tu sais, ça peut faire des guerres, là. Je veux dire, pour les gens qui sont moins bien informés, qui, du jour au lendemain, disent « Attends un peu, Barack Obama a dit telle affaire dans le temps. » Moi, je l'avais vu, le faux, là. Le faux Barack Obama, on l'avait mis de façon virtuelle avec son langage habituel, puis je n'étais pas capable de faire la différence entre le faux Barack Obama puis le vrai Barack Obama, mais le vocabulaire faisait en sorte que c'était catastrophique ce qu'il décrivait. Là.
Exact. Puis ça, bien, aujourd'hui, là, pas besoin d'avoir des skills en informatique, un site web, un peu de contenu, on est capable de faire dire n'importe quoi à n'importe qui sans que ça paraisse que ça soit faux. Tu sais, on dit toujours, bon, les personnalités publiques comme vous autres, il y a beaucoup de contenu sur vous, images, vidéos, audio. Ça serait très facile de vous faire dire n'importe quoi en 30 secondes.
Autant nous frauder que nous faire dire n'importe quoi.
Mais monsieur, madame, tout le monde aussi, parce que ça fait 20 ans qu'on met du contenu de nos vies en ligne.
Ah, puis il y a des générations qui n'ont pas vu et qui n'ont pas su à quel point ça pouvait être dangereux. Nous, jeunes, mais je pense, mettons, à la génération de ma mère qui, elle, son Facebook, c'est un outil de communication avec ses proches. Elle pense que c'est quasiment intime. Mm-hmm. Elle adore ça. Puis là, mettons, au départ, là, quand elle commence, c'était doux, c'était adorable. Puis un moment donné, on s'est... peut-être que certaines choses qui ne devraient pas être mises sur un mur Facebook, mais ils ne savent pas, eux autres.
Tout à fait. Puis, tu sais, celles et ceux qui ont des enfants, vous gérez ça comme vous voulez, mais il y a des enjeux éthiques à mettre des photos de vos enfants parce que vous alimentez une machine qui peut produire des résultats dont on ne connaît pas les conséquences, puis dont on ne peut pas prévoir dans 6 mois, 6 ans, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les données qui sont en ligne.
Je ne vais pas faire peur à personne, mais Victoria Colton, la blonde de Bob le Chef, celle qui fait beaucoup de
true crime, de
podcasts extrêmement populaires, des millions de personnes qui la suivent, a parlé du fait qu'elle ne mettait jamais ses enfants sur ses réseaux sociaux et en vidéo parce que dans ses enquêtes, elle a vu de nombreux parents voir le visage de leur enfant être utilisé dans l'intelligence artificielle pour de la pédophilie. Donc, de monter virtuellement des images de pornophilie qui ont l'air vraiment claires, nettes, précises, vraies, véritables. Et les parents, à un moment donné, tombaient là-dessus avec le visage de l'enfant. Qui avait été utilisé. Ben, dis-moi, au moment où j'ai vu ça, ça a été terminé, finalement, le bâton. Là. Ouais.
Alors, c'est fou. C'est fou.
Ça se rend loin.
Ben, oui, puis on n'a plus les moyens, comme être humain aujourd'hui, de se rendre compte de tout ce qui se passe en ligne. Il y a trop d'informations, on ne pourra jamais tout processer ça nous-mêmes. Donc, il faut être extrêmement prudent dans nos façons de communiquer, mais aussi quand on reçoit des messages. Puis je parle de messages, quand on voit quelque chose sur les médias sociaux, on ne peut plus prendre pour acquis que c'est vrai. Et de là, l'importance d'avoir des organisations publiques, d'avoir des médias, d'avoir des institutions qui sont capables de le faire efficacement parce qu'ils sont en concurrence avec des trolls russes, puis québécois, puis peu importe, qui, eux, font de l'argent en nous bullshitant.
Dans ton projet de recherche, Philippe Dubois, tu as invité les citoyens des villes participantes à compléter un court questionnaire en ligne. C'est encore le temps de remplir ce questionnaire-là?
Jusqu'au 20, donc vous avez le long week-end. Je sais que vous attendez tous ça pour le remplir.
À cette température-là, écoute, c'est la première chose que je ferais.
Si tellement sa terrasse, on va
mais ça prend 10-15 minutes, c'est entièrement anonyme. Ouais. Le lien, si vous êtes à Québec, le lien est disponible sur la page Facebook de la Ville de Québec. Puis nous, ça nous donne un bon coup de main.
Envoie-le nous. On va le mettre aussi sur notre Instagram, parlant de réseaux sociaux. On va le mettre en story, vous allez être capable de cliquer là-dessus dans les prochaines heures.
Puis,
en quoi ça va servir par la suite pour les villes?
Nous, d'abord, on est des chercheurs universitaires, là, on ne fait pas d'argent avec ça. Fait que nous, on va donner le jeu de données anonymisées aux villes. Ce que ça veut dire, c'est que nos partenaires vont avoir accès à la base de données puis vont pouvoir l'utiliser pour comprendre leurs pratiques, comprendre des besoins. Donc, ça, c'est cadeau. Et pour nous, on va aussi faire de la recherche scientifique, c'est-à-dire que nous, après ça, on va retourner avec les communautés de chercheurs, comparer les pratiques, voir si le cas québécois est exceptionnel ou pas, puis tenter de faire du sens d'un point de vue théorique. Donc, il y a des retombées très pratiques, puis il y a des retombées plus de connaissances. C'est comme ça qu'on va utiliser les données.
Puis à ta connaissance, est-ce qu'on est différent? Est-ce qu'on est différent de l'Ontario, de je sais pas, de la Saskatchewan, de l'Alberta? On est-tu différent dans notre façon de communiquer?
Oui, parce qu'on a des attentes différentes envers les organisations publiques.
OK.
Puis ça, on pourrait en reparler, on pourrait faire 3 heures là-dessus, là. Mais
qu'on les aime, 30 secondes.
on a une relation avec l'État puis le public au Québec qui est différente d'ailleurs. Donc, nos attentes sont différentes, le niveau de service auquel on s'attend est différent aussi, puis on a des réflexes qui sont différents des Canadiens.
On est plus chialeux et exigeant, mettons?
Je pense pas, mais l'État joue un rôle plus important dans nos vies puis dans l'économie, donc quand on a l'impression que c'est pas le cas, ben on l'exprime, puis c'est correct, c'est notre droit. Exactement.
OK. Donc, d'autres mots, on est quand même
sujet pour te recevoir à nouveau.
Toujours un plaisir.
Hyper sympathique, Philippe Dubois, professeur en communication et gouvernance à l'École nationale d'administration publique.
Sur les réseaux routiers, c'est pas facile. Les camionneurs sont sur Henri IV Nord, sont sur le pont aussi. On nous parlait aussi d'un convoi sur l'autoroute 40 Est entre Donnacona et Québec, aussi la 20 direction ouest. Donc, finalement, si j'ai envie de vous dire qu'ils sont partout et ça ralentit dans chacun des secteurs de la ville de Québec. Si jamais on peut vous conseiller quelque chose, regardez sur votre GPS, vous allez voir où c'est un petit peu plus embourbé avant de vous rendre à l'endroit où vous souhaitez aller.
Après la pause, notre chroniqueur international sera là, l'excellent Louis Gauthier. Salut Québec! On vit.
Marceau, le